dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 7 mars 2025. Vous êtes sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons du discours de Donald Trump au Congrès cette semaine. Lors de son premier discours, donc, devant le Congrès le 3 mars dernier, Donald Trump a défendu sa politique commerciale, annonçant de nouveaux droits de douane, donc 25% sur les exportations du Canada et du Mexique, et un doublement des droits sur les importations chinoises. Cependant, jeudi, l'administration Trump a suspendu en partie ces mesures jusqu'au 2 avril. Trump a proclamé un renouveau du rêve américain, vantant les réalisations de son administration en 43 jours. Il a évoqué des réformes sur l'immigration, la bureaucratie et la politique étrangère, comme le retrait des États-Unis de l'accord de Paris et de l'OMS. Concernant la guerre en Ukraine, il a appelé à son arrêt immédiat. Son discours a été perturbé par des huées de démocrates et soutenu par les républicains, tandis que la sénatrice Eliza Slotkin a critiqué les réductions budgétaires. Ce discours a duré un record d'1h40. Que pensent nos invités de cette allocution? Quelles pourraient en être les répercussions, aussi bien ici aux États-Unis qu'à l'étranger? Nous en discutons dans cette émission de l'Amérique et vous. Et justement, notre panel ce soir prévoit comme invité Boris Wenou. Il est économiste. Vous êtes à Montréal, au Canada. Boris Wenou, bonsoir.
Bonsoir, Jean.
Merci pour votre disponibilité. Jean-Germain Gros est avec nous. Vous êtes de l'Université de Saint-Louis dans le Missouri. Jean-Germain Gros, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Junior Bonpetit est avec nous. Vous êtes à Dallas. Vous êtes républicain, partisan de Donald Trump. Junior Bonpetit, bonsoir.
Bonsoir John Lyndon, merci pour l'invitation.
Merci d'être avec nous. Junior, je commence par vous. Le président américain s'est donc adressé au Congrès et partant aux Américains. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé lors de ces discours?
Merci pour la question. C'est un discours détaillé, un discours rassurant. Et un discours qui a montré en si peu de temps comment on peut faire un travail lorsqu'on est préparé, on a une vision beaucoup plus claire et précise pour sa nation. Le président a parcouru beaucoup de points, entre autres il a parlé de l'immigration qui était un des sujets phares lors de ses élections, il a démontré que pendant l'administration Biden, il y avait au moins par mois plus de 180 000 migrants illégaux qui entrent aux États-Unis. Mais seul le mois de février, nous avons eu maximum de 8 000 immigrants illégaux qui entrent les frontières sud des États-Unis. Juste pour montrer qu'il n'y avait pas besoin de nouvelles lois, mais il y avait juste besoin d'un nouveau leadership qui est fort, et ça donne un message fort aux immigrants illégaux de ne plus venir aux États-Unis illégalement. Et il est en train de déporter des immigrants illégaux criminels qui ravissent les villes aux États-Unis. Deuxième point, saillant, il a parlé de Doge. Doge qui est cet organe qui régule le fonctionnement des agents de l'État, qui est en train de montrer aux États-Unis, aux contribuables américains, comment l'administration passée dépensait l'argent américain. Les fraudes massives, des affectations qui ne sont pas, je vais dire, appropriées. Pendant que les Américains ont besoin de l'argent ici, ils envoient ça comme 40 millions de dollars, comme ça on envoie à l'Ukraine, Afghanistan, des dépenses comme ça qui ne sont pas justifiées. Ça, ce sont des grandes révélations menues de main de maître par l'homme d'affaires Elon Musk. Il a parlé aussi des tarifs. Les tarifs, parce que l'économie fait partie prenante de l'électorat de Donald Trump, donc l'immigration et l'économie. Il parle des tarifs. Là, maintenant, il parle des tarifs réciproques. si le Canada, vous nous chargez 25%, on vous charge aussi 25%. Parce que les États-Unis ont été toujours pris l'avantage par d'autres pays et d'autres compagnies étrangères au détriment des États-Unis. Donc, il fait revenir la main-d'œuvre aux États-Unis. La conséquence, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a des compagnies comme Apple qui a promis d'investir plus de 400 milliards de dollars. Il y a d'autres compagnies qui reviennent aux États-Unis pour payer moins de taxes. Ça va créer un boom et ça va donner l'emploi aux Américains et les Américains vont payer la taxe. Donc, bref, pour ne pas trop monopoliser la parole, je pense que ça, ce sont des points pour imaginer. Je ne peux pas oublier, lorsque le président parlait aux États-Unis, il n'y a que deux sexes. Il y a le sexe féminin et le sexe masculin pour nos enfants à l'école. Parce que l'administration passée était en train de promouvoir l'endoctrinement de nos enfants, changer les sexes lorsque tu es un enfant, un garçon ou une fille. Et Donald Trump a rétabli ces valeurs intrinsèques que l'Amérique incarne.
Alors, vu du point de vue donc d'un républicain, Junior Bonpetit, ça c'est ce que vous avez vous retenu. Jean-Germain Gros, vous avez également suivi ce discours. Quels sont les points qui vous ont le plus marqué?
Bon, c'est un discours qui a été assez long. Je crois que la durée, c'était 100 minutes, donc c'est-à-dire 1 heure et 40 minutes.
Tout à fait.
On peut dire que c'était aussi un discours multiforme, si je peux parler comme ça. Le président a touché sur plusieurs points sanglants. Si je peux m'exprimer de cette façon. Les points d'actualité, je ne veux pas rentrer dans une polémique, alimenter une polémique. Je dirais plutôt que la façon dont le discours a été reçu dépend de l'idéologie de celui qui l'a entendu. Donc, les républicains, les partisans, les supporters de Donald Trump vont tirer de ce discours ce qu'ils veulent en tirer. Et ceux qui sont opposés à M. Trump auront une réaction tout à fait contraire. Nous sommes dans une situation de partisanerie extrême. Et donc, M. Trump est une personnalité, disons, controversée. Ceux qui le supportent le supporteront jusqu'au bout. Et ceux qui sont contre lui, je suppose, comme il l'a admis dans son discours, mais ça ne seront pas impressionnés. Donc voilà là où nous sommes aujourd'hui aux États-Unis. Nous interprétons à notre manière la réalité.
D'accord. Alors, ça c'est les États-Unis. Allons au Canada, Boris Wenu. Quelles ont été les réactions à ces discours de Donald Trump au niveau du Canada où vous vous trouvez, où vous vivez? On sait par ailleurs que le Canada s'est vu imposer 25% de droits de tarifs douaniers. Le président américain a repoussé ça au 2 avril.
Oui, merci John. Déjà, avant même d'intervenir par rapport à comment est-ce que le discours de Donald Trump a été interprété, ressenti au Canada, je voudrais dire que c'était quand même un discours très symbolique. Donc, en dehors de la durée qu'on a évoquée, Trump essayait de redéfinir le monde et l'ordre mondial tel qu'on le connaissait. Et donc, il a été suffisamment clair par rapport à comment est-ce qu'il voyait le monde et comment est-ce qu'il voyait les États-Unis vis-à-vis du monde. Donc ça, c'est deux éléments très importants qu'il faut prendre en compte. Après, il y a des détails internes dans le discours qui concernent, par exemple, les flèches et les pics qu'il a lancés à son prédécesseur, comment est-ce qu'il se positionne par rapport à la question des tarifs, par rapport à l'Ukraine, par rapport à plein d'autres aspects géopolitiques. Donc je pense qu'il y a pas mal de symboles dans ce discours qu'il ne faut pas peut-être... Il faut prendre le temps, en fait, voilà, de digérer et de comprendre ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Vu du Canada, je crois que les gens étaient, je veux dire, essentiellement l'administration Trudeau, était plutôt dans la logique que les tarifs vont venir et qu'ils vont, parce que Trudeau l'a même dit, je pense, hier, qu'il s'est toujours dit, une fois que Trump a fait la première annonce, il y a environ un mois et quelques jours, ils savaient qu'on était déjà dans une guerre ouverte sur la question des tarifs avec les États-Unis. Donc, je pense que les Canadiens se sont préparés à l'idée que ça va être un processus qui va continuer. Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure? C'est, vous avez vu très rapidement la réplique à l'option Trump par l'administration canadienne. Ça, c'est le premier élément que je veux dire. La deuxième chose, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais c'est que les actions de Donald Trump ont paradoxalement créé en fait des soucis en fait au Parti conservateur du Canada, qui aujourd'hui se fait très rapidement rattraper dans les sondages par le parti de Trudeau. Donc ça veut dire que les Canadiens sont suffisamment mécontents par rapport à leur rapport aujourd'hui et leur relation avec les Américains, de sorte que ça se traduit même dans leurs intentions de vote, parce qu'ils ne veulent pas avoir forcément peut-être un parti conservateur proche des idées de Donald Trump qui va finir par gagner les élections en automne prochain. Donc il y a des conséquences lourdes qui sont déjà vues du côté du Canada. Et je suppose que lorsqu'on va parler des tarifs, on va aller dans les détails.
Effectivement. Jean-Germain Gros, je reviens vers vous. Le président américain a annoncé un gel immédiat des embauches fédérales et une restructuration massive du gouvernement. Il a même menacé, et on l'apprend à l'instant, il y a des universités qui vont se voir couper le nerf de la guerre, l'argent. Comment cette politique qui est exécutée par Doge d'Elon Musk peut-elle favoriser l'efficacité du gouvernement et de l'administration Trump?
Bon, c'est une question quand même difficile à répondre. Nous sommes tout au début des 4 ans de M. Trump. Et n'oublie pas que toutes ces décisions sont prises plus ou moins par décret, par décision exécutive, si je peux traduire de l'anglais directement. Donc ce ne sont pas des lois. Les décisions exécutives, ce sont des décisions prises par le président. Donc, ce ne sont pas des lois qui ont été votées par le Congrès et le Sénat américain. Donc, ce qui veut dire que le prochain président peut, avec une signature, abroger toutes ces décisions. Donc, ensuite, il ne faut pas oublier que il y a beaucoup d'organisations qui ont décidé d'appeler en justice l'administration, c'est-à-dire de poser un défi quant à la légalité de certaines décisions. Et vous avez vu hier qu'un juge avait ordonné à l'administration de faire marche en arrière en ce qui concerne certaines décisions, particulièrement l'aide étrangère. Donc nous sommes quand même dans une situation presque, je dirais, une situation inédite et qui pourrait même conduire à une crise constitutionnelle. On peut se demander, par exemple, qu'est-ce qui va arriver si Trump, si le secteur judiciaire ordonne à l'administration de faire marche arrière et l'administration décide de faire fi des décisions constitutionnelles, parce que l'analyse finale, le secteur judiciaire n'a pas d'armée, le secteur judiciaire ne peut pas forcer l'administration d'exécuter une décision prise par un juge. Donc nous sommes dans un moment presque inédit dans l'histoire des États-Unis.
Alors, Junior Bonpetit, on constate quand même que malgré certaines frustrations de certains Américains, Donald Trump reste le maître du jeu. Il a tenu une réunion hier avec certains membres de son cabinet pour redonner la direction, notamment par rapport au travail de Doge et d'Elon Musk. Qu'est-ce que vous pensez de cette assise-là?
D'abord, il faut dire que le président Trump est en train d'implémenter les promesses électorales. Et il y a eu des sondages après son discours. Qu'est-ce que le peuple américain pense de la direction que prend le pays maintenant? La quasi-majorité, plus de 70%, 70% de la population américaine, surtout en moins du sondage, approuve la direction que prend le pays. Quand on parle de l'agence d'efficacité du gouvernement, c'est le président Trump et son staff en majorité ne sont pas des politiciens réguliers, ce sont des hommes d'affaires. Lorsque tu as une entreprise, tu dois voir que son entreprise doit être efficace, doit être rentable. Ouais, parce que les États-Unis, sa balance commerciale est déficitaire. Vous voyez, il y a plus de dettes. Le président Trump a dans sa vision de réduire les dettes. Alors, il faut réduire les dépenses. Pour un travail qu'un agent fédéral peut faire, une personne peut le faire, mais au moins 5 personnes, 10 personnes. Vous voyez, je suis compatis avec nos compatriotes qui perdent leur boulot, mais du point de vue de l'entreprise ou du gouvernement, les pays gagnent parce que les pays font beaucoup plus d'économies. Moi, je pense que le président Trump est en train de faire exactement c'est pourquoi il a été voté en majorité. Mmh. Rappelons aussi que le président a gagné tous les 7 États indépendants. Donc, pour dire que son plan, son offre politique a été acceptée. Je vois mes amis démocrates qui sont en difficulté ici de se défendre en train de chercher le conflit constitutionnel. Ça n'existe pas. Le pays a pris une très bonne direction. Le pays est respecté dans les concerts des nations. Vous voyez le cas de l'Ukraine aujourd'hui. Le président ukrainien, le président l'a dit lors de son discours. Il a envoyé une lettre pour revenir sur la table des négociations. Comment les États-Unis peuvent dépenser beaucoup plus d'argent que les Européens, alors que la guerre d'Ukraine affecterait beaucoup plus les Européens que les États-Unis? Alors, l'Amérique doit gagner et l'Amérique doit ramener la garantie. Et c'est ce que même nous voulons pour nos pays africains, parce qu'il y a encore des foyers où il n'y a pas de paix, comme à l'est de la République démocratique du Congo, que nous voulons ramener les mêmes deals pour qu'il y ait la paix dans le monde. Le président Trump, c'est le leader que les États-Unis ont besoin pour rentrer, être fort économiquement et aussi politiquement dans le monde extérieur.
Il faut ajouter à votre suite qu'effectivement, dans la majorité des sondages effectués, jusqu'à 58% d'Américains approuvent le travail de Trump à ce jour. Boris Wenu, Donald Trump a aussi parlé, on évoquait le sujet tout à l'heure, des droits de douane imposés notamment au Mexique et au Canada, à la Chine et peut-être bientôt à d'autres pays, y compris européens. Quel impact économique ces nouveaux droits de douane pourraient avoir sur le Canada, par exemple, l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis?
Alors, je pense que Trump, dans son discours, a parlé ou a reconnu que, même sur les États-Unis déjà, que les tarifs vont créer quand même une petite perturbation. Alors, ce qui est important, chaque fois qu'il y a des chocs, c'est quels sont les mécanismes que les pays mettent en place pour assurer la résilience de leur économie. Et je pense que l'administration américaine a une certaine idée de ce qu'il veut faire. Donc, par exemple, les questions liées à la dérégulation, à la baisse des taxes. Voilà, ce sont pas mal de mécanismes qu'ils ont en place pour pouvoir gérer ces genres de chocs qui peuvent créer des frictions parce que les tarifs peuvent aussi affecter leur économie. Alors, vu des autres pays, c'est quels sont ces genres de mécanismes que les mêmes pays tentent de mettre en place? Donc, pour le Canada, en dehors du tic-tac qu'ils sont en train de faire avec les États-Unis, la question c'est comment est-ce qu'ils essaient de mettre en place des mécanismes pour protéger contre ce choc-là? Et donc, tant que les pays ne vont pas en fait être réactifs ou proactifs, je vais dire plutôt, un peu comme Donald Trump, il se fera qu'on va être en situation où des pays comme le Canada ou peut-être bientôt aussi l'Union européenne vont se retrouver en difficulté. Maintenant, parlant des risques ou en fait des conséquences qu'on a déjà au niveau du monde, j'ai regardé tout à l'heure deux indices très rapidement. Donc l'indice d'incertitude mondiale est en hausse. Donc techniquement, c'est un indice que beaucoup de personnes regardent pour donner une idée de ce que les investissements au niveau mondial pourraient représenter. Donc c'est vraiment en hausse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'indice de l'incertitude de l'économie politique. Vous voyez ça aussi, c'est arrivé en fait à des niveaux similaires à ce qu'on avait connu pendant la période de COVID. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il semble que même si les pays, globalement, y compris l'Europe ou le Canada, disent que nous nous préparions en fait à l'idée d'une administration, d'une nouvelle administration Trump et que nous avons les mécanismes en place pour la gérer, il semble que tout le monde est en panique et les gens ne se sont pas préparés. Donc, il se fait que l'Amérique va vraiment surfer sur cette vague et les autres pays qui sont certainement dans l'attentisme vont subir. Dernière chose que je veux évoquer, je suivais il y a quelques heures l'interview de la patronne de l'OMC qui parlait en fait des griefs que les États-Unis ont contre en fait le système mondial aujourd'hui du commerce. Et donc elle a évoqué l'idée que ces griefs doivent être entendus, on doit les prendre en compte et en discuter.
Donc, la question, par exemple, de la réciprocité que dont l'un de mes panélistes parlait tout à l'heure, ça fait partie des choses qu'il faudrait vraiment discuter.
Tout à fait.
En même temps qu'elle a fini de dire ça, c'est qu'au moment où Trump attire toute l'attention en fait, dès les États-Unis, 80% du commerce mondial continue pas à se passer et pas se passer selon les lois de l'OMC. Et ça, c'est important à noter.
Alors, puisqu'on parle de l'international, Jean-Germain Gros, la politique étrangère de Trump, notamment le retrait des États-Unis de plusieurs organismes ou organisations et accords internationaux, cette politique est-elle bénéfique ou préjudiciable pour la place des États-Unis dans le monde aujourd'hui?
Bon, encore une fois, je crois qu'il est trop tôt de prononcer un verdict. Mais on peut quand même présager certains problèmes. Par exemple, il y a le programme PEPFAR qui a été créé sous l'administration d'un autre républicain, sous l'administration de George W. Bush. PEPFAR. À propos duquel j'ai écrit un livre, eh bien, dispense des médicaments en Afrique, surtout en Afrique du Sud, concernant le sida. Maintenant, avec la disparition de l'USAID, eh bien, on commence à voir certaines répercussions. Ceux qui sont atteints par la sida en Afrique, surtout en Afrique du Sud, ne peuvent plus avoir de médicaments. N'est-ce pas? M. Musk parle d'un retrait possible des États-Unis, des Nations Unies et de l'OTAN. Cela pourrait avoir des conséquences néfastes. Parce que, qu'on le veuille ou non, les États-Unis représentent un gros poids dans l'échiquier, sur l'échiquier mondial. Donc, si les États-Unis décident d'adopter une politique d'isolation, cela aurait inévitablement des conséquences
et sur d'autres
généralement néfastes.
Coin du monde, d'accord. Junior Bonpetit, on tire à la fin de cette émission. Donald Trump a parlé d'un renouveau du rêve américain et de l'aube de l'âge d'or des États-Unis. Est-ce qu'il n'a pas raison de faire rêver les Américains et de susciter en eux un espoir d'une Amérique où il fait bon vivre, contrairement à ce que dit l'opposition?
Ben, tout à fait, c'est ça même le sens. Nous sommes des immigrants légaux dans ces pays. Nous sommes venus. Une des choses qui nous a amenés dans ces pays, c'est les rêves américains. Les rêves américains doivent revivre. Ça fait une décennie ou un temps où l'administration passée, on ne parlait plus rêve américain. Le président Trump a été élu aussi pour revivre ça. Lui-même, il incarne les rêves américains. Si vous connaissez l'histoire de Donald Trump, il incarne cela. Et son gouvernement, son cabinet, il y a beaucoup plus de gens qui représentent les rêves américains. À l'instar de M. Elon Musk, un immigrant légal ici dans ce pays, un Sud-Africain d'origine. Voyez ce qui fait maintenant la fierté. Et ça nous inspire, nous, les immigrants, ça nous inspire aussi nos enfants. Donc je crois que le président Trump, dans ses 4 ans ici, l'Amérique entre dans son âge d'or.
Alors, vraiment 10 à 20 secondes pour le mot de la fin. On va dire un mot sur l'Ukraine. Boris Wenou, la médiation que tente de mener Donald Trump, un mot sur ça?
Je pense qu'on finira par faire la paix en Ukraine avec les États-Unis. Certes, l'Europe tente une option subsidiaire, mais elle va rester subsidiaire. Je pense qu'à la fin de la journée, les États-Unis vont revenir dans le jeu. Je voudrais juste finir pour dire que c'est important, lorsqu'on suit Trump, de se référer au dernier président des États-Unis du 19e siècle, Bill McKinley. Exactement en train de suivre Donald Trump est techniquement en train de suivre Bill McKinley sur les questions de tarifs et tout ça.
Donc, on développera cela prochainement. Jean-Germain Gros, 10 secondes, un mot sur l'Ukraine.
Bon, j'espère qu'il y aura la paix en Ukraine. C'est tout ce qu'on peut espérer, quoi.
Junior Bonpetit, un mot sur l'Ukraine.
L'Ukraine à l'aubaine, l'offre qu'il attendait et ne peut pas manquer cette opportunité d'avoir la paix et la prospérité dans son pays.
Voilà, c'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous, présentée par John Lyndon, production en firme Koya Weda. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.